Les amis d'Orwell ont testé pour vous l'expo Teradata de la Cité des Sciences et de l'Industrie.
Donc là, on est dans une autre table, donc la 12e sur la trentaine que compte l'exposition. Teradata, donc je vous rappelle, la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous sommes donc devant la table. Qu'est-ce que la data visualisation ?
Alors là, on est sur des problèmes de comparaison, de répartition temporelle ou géographique. Répartition temporelle, c'est la chronologie. La répartition géographique, c'est surtout la géolocalisation. Soyons clairs, c'est le panoptique du troisième millénaire. Tout à l'heure, on parlait de tri. On avait dit que le tri, c'était avant tout de la catégorisation, de la hiérarchisation. On y arrive. Répartition, tri, répartition, hiérarchisation, proportion. Voilà, donc là finalement on n'explique pas l'enjeu, ce qu'il y a à perdre ou à gagner réellement. On t'explique qu'on peut mettre tout ça sous forme de graphique, c'est sympa. C'est toujours très sympa, c'est toujours ludique en vérité.
Donc là on était dans la deuxième partie de l'expo, donc les données, comment les traite-t-on. Là on rentre dans la troisième partie de l'exposition Teradata.
Oh,
les données,
qu'est-ce
que ça change ? Alors Dominique Cardon, on va peut-être le présenter, Bernard, tu le connais un petit peu ?
Oui, Dominique Cardon, je le connais, j'ai assisté à plusieurs de ses conférences et puis j'ai eu deux, trois de ses bouquins. Il a fait notamment un bouquin récemment sur les algorithmes. À quoi rêvent les algorithmes ? Dominique Cardon, c'est un sociologue qui travaille au sein du Lab Orange. Donc
Ex-France Télécom.
Ex-France Télécom, voilà. Donc il est essentiellement il travaille sur toutes les logiques en fait d'acceptation des technologies, sur la façon dont on va les prendre en main, dont on va les utiliser. Donc il a une approche sociologique, mais très orientée vers des enjeux de consommation.
Sociologie des usages, c'est le terme adéquat,
mais ça
s'apparente à l'acceptabilité en fait. Nous faire avaler la pilule avec.
Exactement. Enfin, disons qu'il est assez circonspect sur ce que peut faire la CNIL et il est assez réaliste sur la capacité.
Il fait quand même partie du comité prospectif de la CNIL. Il y a une espèce de groupe de travail qui s'est constitué il y a 2-3 ans, plutôt même il y a 5 ans.
C'est vrai.
C'est une espèce d'atelier prospectif et donc où il y a des personnes extérieures à la CNIL.
Il est assez réaliste quand même sur le.
Bon, on va écouter ce qu'il nous raconte. On y va.
Une donnée, c'est à la fois un texte, une image, une vidéo, un son, mais c'est aussi un clic, c'est aussi des traces laissées par notre téléphone portable de mobilité, c'est aussi la vitesse de lecture sur une liseuse électronique. C'est toute une série d'informations qu'on va ensuite rattacher à l'individu pour procéder à un certain nombre de calculs. Mais ce qui est important de retenir, c'est l'idée que la donnée, c'est une simple trace dont on ne sait pas très bien quelle est la signification. La donnée n'est pas encore une information et surtout elle n'est pas une connaissance. C'est à travers les techniques de calcul et les algorithmes qu'on va transformer cet ensemble très très disparate et volatile de ce qu'on appelle les données en quelque chose qui va produire une interprétation et une connaissance. L'enjeu en fait des calculateurs, c'est de transformer les données en interprétation. Les transformations numériques amènent aujourd'hui à une modification de la manière de calculer la société et du coup de la représenter. On pourrait dire que traditionnellement, et c'est toute l'histoire de la statistique sociale, on a calculé la société par le haut. On a représenté les individus à travers des catégories d'appartenance, leur sexe, leur âge, leur profession, leur niveau de revenu, et on a essayé de mesurer des corrélations entre les catégories d'appartenance des individus. Ce qui a changé dans ce système, c'est qu'on part des comportements des individus et non pas des catégories d'appartenance auxquelles on les a identifiés. Et d'une certaine manière, ces techniques de calcul, ces nouvelles formes statistiques, elles essayent d'épouser quelque chose qui est présent dans notre société, qui est l'individualisation des représentations de l'autonomie singulière de chacun dans nos sociétés. Nous pensons que nous avons chacun des goûts, des particularités, des différences qui peuvent être mesurées grâce à ces nouvelles traces numériques et représenter différemment la société, la représenter par le bas. Le paradoxe du numérique, c'est que alors que le web avait ouvert l'information, le risque aujourd'hui pour l'utilisateur, c'est que les algorithmes les enferment dans des structures de préférence régulières parce qu'ils font régulièrement la même chose et que du coup, on va leur proposer des choses qui leur ressemblent de la façon la plus proche possible, qui du coup peut les enfermer dans une bulle. Ça présente notamment un risque sociologique, c'est que les individus qui ont beaucoup de ressources sociales ou culturelles, ils ont des réseaux sociaux qui sont hétérogènes, multiples, variés, divers, géographiquement dispersés, et du coup ils voient passer dans le fil d'actualité de Facebook, ils vont voir passer beaucoup d'informations extrêmement diverses. Mais les individus qui ont moins de ressources sociales et culturelles, en revanche, ont des réseaux sociaux plus courts, plus territorialisés, puis des gens qui leur ressemblent beaucoup, et du coup le risque de ne voir dans son fil d'actualité que des informations finalement assez proches de choses qui les concerne habituellement, peut enfermer les individus dans une bulle. Donc il y a un vrai sujet autour de l'idée que la richesse informationnelle du web n'est peut-être pas toujours très bien représentée par les nouvelles techniques algorithmiques, notamment celles des réseaux sociaux.
Intervention de Dominique Cardon.
Et si nous changions nos habitudes ?
Sociologue au sein des laboratoires du groupe Orange.
Et si, de temps en temps, on essayait de représenter en se dézoomant soi-même, en ayant une vue plus large de ce qu'on a l'habitude de faire, en étant plus curieux, en regardant des informations politiques qui, d'habitude, avec lesquelles on n'a pas d'adhésion particulière, en nous intéressant à des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, en essayant d'être plus ouvert, plus divers, plus cosmopolite que l'algorithme a l'habitude de nous entendre et de nous comprendre, bah d'une certaine manière, c'est une manière nouvelle d'apprivoiser les algorithmes, en essayant aussi de tromper et de jouer avec la tentative d'hyper-personnalisation qu'ils essayent de mettre en place aujourd'hui dans nos sociétés.
Les amis d'Orwell ont testé pour vous l'expo Teradata de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Teradata.
Ouais, ce que nous dit pas Cardon, finalement, là, dans ce petit speech, c'est la problématique de l'opacité des algorithmes. Parce que ces nouvelles techniques de calcul, c'est un petit peu comme quand on fait un jeu, qu'on connaît les règles d'un jeu, et puis quand on est évalué à l'issue du jeu, on connaît les règles, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a produit comme résultat, et on comprend la note qu'on nous attribue, ou le score qu'on nous attribue. Avec l'algorithme, bah, finalement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière ces algorithmes. On ne sait pas quelles sont les données. Et là, Cardon, quand il parle des algorithmes, il parle effectivement du calcul de la vie, du calcul du réel. On part de la base, on part de ce que font les gens. Toutes ces opérations, toutes ces clics, toutes ces activités sont répertoriées. Puis c'est ça qui constitue à l'arrivée avec des algorithmes de l'information, selon Cardon. Mais le chaînon manquant, là, dans l'explication, c'est qui fait ces algorithmes, à quoi servent-ils, quels sont les enjeux derrière ces algorithmes, qu'est-ce qu'il y a à perdre, qu'est-ce qu'il y a à gagner.
C'est un peu la notion de la boîte noire, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est une notion de boîte noire. Aujourd'hui, la plupart des algorithmes qui sont utilisés ne sont pas ouverts, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pas dit, ça, c'est pas dit. Alors il a raison hein, de dire qu'effectivement, quand tu t'abonnes sur des réseaux sociaux et que bah, voilà, tu vas chercher des choses qui t'intéressent, donc finalement tu te retrouves enfermé dans des espèces de bulles, des bulles de conviction, et quelque part bah, tu vas pas en sortir si tu restes toujours dans ces bulles de conviction. Voilà, tu es un militant Front National, tu reçois que des tracts du Front National et peu de chances que tu envisages
un autre parti. C'est vrai qu'il le dit assez bien, c'est le risque d'enfermement justement. Alors, contrairement à l'ouverture au côté un petit peu encyclopédique d'une internet, etc. Alors, tout le monde apprend plus que...
Là où il est aussi intéressant, mais il va pas très loin là-dessus, c'est finalement il nous refait un petit peu le coup de la fracture numérique, disant qu'au départ, des gens qui ont un bon bagage, capables d'ouvrir leurs sources d'informations, leurs sources leur système de collecte, et alors que ceux qui ont peu de bagages au départ vont rester cantonnés sur des sujets qui... Et donc du coup, c'est un petit peu le coup de la fracture numérique revisité 20 ans plus tard par Cardon, sauf qu'il ne dit pas le nom, quoi. Il ne dit pas fracture numérique, fracture sociale. Et voilà, il y a des gens qui ont la capacité d'exploiter tout ça, puis des gens qui sauront moins l'exploiter. En gros, c'est ce qu'il dit pudiquement.
Donc dans cette troisième partie de l'exposition Teradata, donc on fait un petit tour, il y a certains trucs qu'on peut passer. Là, il y a des secteurs d'activité en mutation. Donc c'est toujours dans les données, qu'est-ce que ça change ? Donc là, on a un petit peu dans le côté économique. Hein. Donc on a l'aspect touristique, le renseignement, les médias, la santé, l'énergie, l'agriculture. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent en matière de renseignement ? En matière de renseignement, la collecte des données devient colossale. Communication, localisation des téléphones, vidéosurveillance. Ces données doivent être analysées pour prendre sens. Par exemple, établir des liens entre des individus peut faire émerger des réseaux de terrorisme, de pédophilie, délinquance financière. Toutefois, la surveillance numérique massive des citoyens doit être encadrée pour préserver les libertés essentielles. Bon, c'est peut-être la seule fois qu'on verra cette notion dans l'exposition, malheureusement.
C'est intéressant parce que tu vois, les secteurs d'actualité, finalement, encore une fois, on banalise. Hein, on est vraiment dans une logique d'acceptation totale de ces techniques. On va te mettre sur le même pied d'égalité tout ce qui touche à tourisme, aux médias, la santé, l'énergie, l'agriculture, le renseignement. Ça, c'est pareil. On aurait pu rajouter le sport, la musique et puis la peinture et le dessin. Et voilà, le renseignement.
Là, c'est intéressant aussi. Énergie. Le numérique apparaît comme une nécessité pour relever le défi écologique. La multiplication des capteurs fournit une masse de données qui permet de moduler la fourniture d'énergie. Il devient possible d'envisager une transformation en profondeur du réseau énergétique. Donc c'est là Ils le disent pas, mais donc on est dans les smart grids, les smart cities, hein, encore une fois, une espèce
ça,
de grosse novlangue.
Ce concept, il y a smart city, il y a aussi Linky, là,
Le compteur électrique communicant.
EDF chez EDF, là, qui rentre aussi dans cette logique, hein, cette logique d'optimisation, comme on dit.
Hein, il optimise le flux d'énergie, le flux de transport d'énergie.
Donc il t'apprend, il voit comment tu vis, ce que tu consommes, comme, et puis par rapport à ça, il envoie des informations, et puis c'est censé améliorer ton quotidien. C'est pas trop bien comment, mais remarque, on nous parle de pénurie d'électricité là pour l'hiver 2017 là, à cause des centrales qu'on ferme, soi-disant.
On verra plus tard. Alors là, on a quelques métiers de la data, donc il y a plein de termes anglo-saxons, enfin, du franglish, voilà. En voiture, en voilà, donc web analyst, data scientifique. Data miner, data broker, donc là on se croirait à la bourse, okay. Business analyst, architecte big data, et puis un data protection officer.
Alors celui-là c'est le fameux correspondant informatique et liberté.
C'est le garant d'un traitement responsable des données.
Voilà. C'est la version internationale du CIL.
Du CIL.
CIL, c'est le DPO.
Chef d'orchestre de la conformité, il protège les données et applications informatiques de l'entreprise. Il veille aussi à la protection des données personnelles. À ce titre, sa présence sera obligatoire dans les administrations publiques dès mai 2018, en vertu d'un règlement européen. Voilà, donc le CIL, donc c'est le garant, mais c'est surtout le fusible des fois, de la politique sécuritaire d'une entreprise et d'une administration. Donc là, on est encore dans l'exposition Terra Data, la Cité des Sciences de la Villette, dans les Amis d'Orwell pour Radio Libertaire.
Au cœur des Big Data.
Là, on est dans la quatrième partie, les données où ça nous mène. Tiens, on va aborder cette question-là avec une professionnelle de la manipulation des symboles. Elle s'appelle Isabelle Falk-Pierrotin, la présidente de la CNIL. Bonjour Isabelle, elle reste Bonjour. Devant nous là, plantée comme si elle attendait qu'on lui déclenche le signal où ça nous mène. La présidente de la CNIL nous parle.
L'Europe a fait le choix de considérer la protection des données personnelles et la protection de la vie privée comme un droit fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un droit fondamental, c'est un droit qui n'est pas lié à une... caractéristique spéciale de l'individu, c'est-à-dire un consommateur, une personne mineure, un citoyen. Un droit fondamental, c'est un droit qui est lié intrinsèquement à la personne humaine et qui est lié au respect de son autonomie et de sa dignité. Et à cet égard, si l'innovation est construite autour des données, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui dans l'univers numérique, on sait bien, et toutes les études le montrent, qu'une des craintes qui s'exprime largement de la part des individus, c'est cette absence de maîtrise, cette confusion autour de l'utilisation de leurs données personnelles. Donc la protection des données personnelles est un moyen de construire un cadre de confiance permettant à une innovation de se développer et d'être véritablement robuste sur le long terme auprès des utilisateurs potentiels de la dite innovation. Donc je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre protection des données personnelles et innovation. Au contraire, les données personnelles peuvent aider l'innovation à se construire dans la durée. Je vous donne un exemple. Les objets connectés. On parle beaucoup des objets connectés. Il est évident que les objets connectés, comme par exemple le compteur communicant, sont de nature à la fois à intéresser énormément les individus, parce qu'ils vont avoir une facture électrique qui va être plus basse, mais en même temps peut-être à les inquiéter s'ils considèrent ce compteur communicant comme potentiellement un mouchard. Et donc la fédération professionnelle qui est liée à cette activité de déploiement des compteurs nous a contactés pour que nous les aidions en fait à bâtir ce que nous avons appelé un pack de conformité, c'est-à-dire un plan d'innovation de déploiement de ces compteurs communicants qui intègre très en amont la protection des données personnelles. Et ceci, non pas pour freiner le déploiement, mais pour au contraire répondre très en amont aux éventuelles craintes des utilisateurs en termes de protection de leurs données.
Non, mais il y a deux trucs là qui m'ont hyper choqué dans ce qu'elle raconte.
Alors oui, alors en plus, voilà, il y a la notion de anticiper sur l'objection. Alors, on ça, prépare c'est... déjà voilà. les gens à accepter. On n'est vraiment pas dans le discours, dans le débat, dans la réflexion. On est dans la novlangue d'acceptation
non,
des
techniques. On ne protège pas du tout. On protège rien. On inculque chez les gens le fait que, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas dangereux pour vous. C'est pour le bien de la nation et de l'économie.
Absolument.
Mais la première notion qui m'a choqué, c'est quand elle parle de droit fondamental, qui est donc soi-disant l'approche européenne contre les voraces d'Américains, tu vois. Et pour en arriver au pacte de conformité, qui est tout sauf la protection, qui est tout sauf un droit fondamental, et qui est une espèce de magouille.
Oui, c'est une marche-fer.
En fait, on ne protège pas, mais on fait en sorte que ce soit conforme à la loi. Conforme à ce que la vision de la loi par la
représentation de la loi.
On n'est plus dans le droit, on est dans l'adaptation de la loi.
Nous venons d'adopter un cadre juridique nouveau de la protection des données à travers toute l'Europe, qui sera pleinement opérationnel en 2018. Il faut que l'Europe et les acteurs européens se saisissent de cet espace de régulation européen de la donnée. Nous avons un marché de la donnée de 500 millions de consommateurs. Et en plus, ce marché, il est en phase avec les attentes des consommateurs. On a dit que ceux-ci étaient un peu inquiets sur leurs données.
Intervention de Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la Commission Informatique et Liberté.
Justement, l'approche européenne, c'est un équilibre entre la logique économique, valorisation de la donnée, et une approche éthique, humaniste de la donnée. Donc, c'est le moment de valoriser cet outil, et je crois que l'Europe peut absolument le faire.
Après, ce qu'elle dit sur le Linky, justement, elle ne cite pas le nom du compteur communicant, mais elle dit, par définition, elle dit textuellement que, ça va faire baisser leur facture.
Voilà, que ça fait baisser la facture. Voilà.
Alors que ça, il y a toutes les études montrent que c'est pas du tout garanti déjà, et que parfois c'est même au contraire, parce que le compteur est configuré de manière que ça peut même faire augmenter la facture.
Le béaba de l'acceptation d'une technologie, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle t'apporte quelque chose, c'est qu'elle présente un bénéfice. Voilà, c'est qu'à l'arrivée, tu changes pas de technologie si t'as pas mieux avec la nouvelle par rapport à l'ancienne. Tu t'emmerdes pas à dépenser de l'argent, à te reconfigurer pour apprendre à utiliser quelque chose de nouveau. Donc le compteur Linky, il faut bien à un moment donné le justifier. Donc là, l'argument menteur, l'argument fallacieux, c'est la baisse de la facture. Parce que nous, en tant qu'usagers, on s'en fout que EDF rationalise sa gestion d'électricité, que machin, on s'en fout, c'est pas notre problème, pas notre sujet. Le seul sujet qui nous intéresse, nous, c'est le sujet de la facture. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le traitement d'objection en amont, et on t'explique de façon plus ou moins mensongère, plus ou moins fallacieuse, que la technologie va t'apporter un gain financier, tu vas y avoir un intérêt. Alors déjà, c'est pas dit, mais en même temps, il n'y a pas du tout... Alors voilà, la protection des données, la sécurisation des données qui sont liées à ta consommation, ça passe par quoi? Elle l'a dit, ça passe par un accord, ça passe par un contrat privé. Qui sera plus ou moins respecté.
Et plus par la loi, plus par le droit fondamental.
C'est, voilà. C'est une négociation de gré à gré entre Madame Pierrotin, qui va donner un coup de tampon, c'est Falque-Pierrotin approved, qui va approuver ou pas le dispositif des mecs qui vont déployer le compteur Linky en France. Voilà.
Et puis c'est donc à cette occasion-là qu'elle déploie son argument en disant donc ça va vous aider à baisser la facture et surtout où elle est dans cette mécanique d'anticipation finalement des craintes et donc où elle va piocher dans le cerveau des gens récalcitrants les contre-arguments pour leur vendre leur camelote quoi.
Plus que la crainte, parce que les craintes à la limite elles s'en foutent des craintes, elles parlent de craintes, mais ce qui l'embête c'est l'objection, c'est le refus, c'est dire non je veux pas acheter, je veux pas consommer, je veux pas commander, je veux pas Linky, je veux pas. Donc finalement, on est dans le traitement d'objection. Je te dis, c'est le traitement d'objection des années 70, des vendeurs d'encyclopédies qui foutent le pied dans la porte et qui vont te faire leur truc, tu vois, ils traitent l'objection avant. Voilà. Ah oui, monsieur, oui, effectivement, vous avez raison, on peut imaginer que c'est très cher. À votre place, je penserais la même chose, tu vois, tu rentres pas dans l'objection pour dire, regarde, mais non, c'est pas cher ce que je te propose. Oui, à votre place, je penserais que c'est très très cher, ça peut vous paraître effectivement très très cher. Mais dites-moi, cher monsieur, est-ce que le prix est le seul élément qui je vous fais hésiter, puis t'es là, t'es parti, puis t'es mort, piégé. T'es piégé parce que tu vois.
Oui, mais là on est ici dans le placement de produit, donc on est les poupées Barbie Mattel, voilà, donc on est dans les données personnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Donc avant l'arrivée d'Internet, vos données personnelles étaient conservées sur des fichiers papier ou informatiques. Donc la donnée personnelle, nouvelle monnaie du 21e siècle.
Non, il n'y a pas de safari.
Participer à un concours, demander une carte de fidélité, remplir un formulaire sur Internet ou simplement poster sur les réseaux sociaux. Nous transmettons très souvent des données personnelles à des sites, administrations ou entreprises. Grâce à la loi Informatique et Liberté, vous avez des droits sur les données qui vous concernent, notamment le droit de reconnaître l'usage qui en est fait, le droit de les faire rectifier voire totalement supprimées. Grâce au pacte de conformité de Madame Paquet-Pierrotin, vos données sont protégées. Alors, on va juste enregistrer le film de promo de la CNIL. Ça, je pense que ça va être collector.
D'abord, vous avez le droit d'accéder aux informations que détient un organisme sur vous. Ça signifie que vous avez la possibilité de lui demander quelles infos il utilise et dans quel but. Ensuite, il y a le droit de rectification. Vous pouvez faire corriger une erreur ou faire supprimer une information particulière vous concernant, comme par exemple dans un annuaire. Vous disposez d'un droit.
Tout cela très théoriquement, évidemment.
Vous avez le droit de vous opposer à figurer dans un fichier.
Pratique, ça dépend lesquels fichiers.
Supprimer vos coordonnées de fichiers commerciaux. Pour exercer vos droits, vous devez écrire directement à l'organisme qui détient les informations sur vous.
Sauf pour les fichiers policiers.
Si l'organisme refuse, c'est la CNIL qui intervient. Au bout de 2 mois sans réponse, vous pouvez vous adresser à la CNIL avec les justificatifs de vos démarches. Vous pouvez même le faire en ligne.
Même le faire en ligne.
Les documents qui montrent que vous avez bien essayé de contacter l'organisme. Une capture d'écran, par exemple. Attention, dans certains cas, seule la CNIL est autorisée à demander ce qu'un fichier contient sur vous. Ce droit d'accès indirect concerne par exemple les fichiers des forces de sécurité ou même les fichiers des comptes bancaires. Dans ce cas, contactez la CNIL en premier, car c'est uniquement par son intermédiaire que vous pourrez exercer votre droit d'accès et éventuellement de rectification. Et ce n'est pas tout. Depuis 2014,
le droit de déférencement, ça c'est le droit de faire retirer des moteurs de recherche
et le résultat d'une recherche. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire à votre disposition en n'oubliant pas de joindre un justificatif d'identité et de motiver votre demande. Si le moteur de recherche refuse, vous pouvez contester ce refus en contactant directement la CNIL. Attention, tous ces droits impliquent de justifier sa demande en envoyant les justificatifs qui permettent de prouver votre identité.
Alors qu'au départ, les fichiers devaient recueillir notre accord express. Et là, maintenant, on nous explique que toutes ces mesures sont nécessaires. Alors que parfois, on n'a pas demandé à être dans les fichiers. Donc il y a un retournement des charges de la preuve, juridiquement, qui est vraiment assez cruel.
Concrètement, dès l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur la protection des données, l'utilisateur d'un service en ligne pourra récupérer certaines données personnelles qu'il aura communiquées.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Libre à lui de réutiliser ces données sur un autre service en ligne ou pour un usage différent. Pratique, non ?
Bon, voilà pour le petit film de propagande de la Commission Informatique et Liberté. Donc, juste derrière, donc, il y a juste d'écrire un petit peu les deux poupées Barbie, là, qui décrivent la poupée de 74, où tout était sous forme papier, donc acte d'état civil, carte d'assurance sociale, carte électorale, fiche de paye, et celle de 2017, donc avec un passeport biométrique, un acte d'état civil, une carte vitale avec puce, déclaration fiscale, permis de conduire, un e-relevé bancaire, des cartes de transport avec puce RFID, des cartes électorales, des fiches de paye et des objets évidemment connectés, smartphone, tablette, bracelet et compagnie. Et avec évidemment les comptes de réseaux sociaux pour boucler la boucle.
Terra Data. Les amis d'Orwell ont testé pour vous l'expo Terra Data. De la Cité des Sciences et de l'Industrie.
Sur la table 23.
Table 23, donc c'est la numérisation du monde et les libertés individuelles, donc dans le prolongement de... Donc là, on parlait de Safari, et bien tiens, voilà, années 70, la prise de conscience, donc dans l'histoire, on repart des années 70, avec l'affaire Safari, la loi de 78, et puis ensuite, il y a toute une historique, comme ça, une chronologie de la montée en puissance des fichiers. Les fichiers de l'État sous contrôle, ça c'était les années 80, mais ils vont vite sortir du contrôle. Comme on va le voir, hein. 1987, premier fichier biométrique de police judiciaire, le FAED, donc le fichier automatisé des empreintes digitales. Et même année, donc la carte nationale d'identité sécurisée sans fichier central biométrique suite à l'avis de la CNIL. Donc en 87, la CNIL avait encore réussi effectivement à freiner le ministère de l'Intérieur dans ses velléités de biométriser les cartes d'identité nationales.
Alors que là, bientôt, ce qui a été voté il n'y a pas longtemps, là, c'est qu'il va y avoir une espèce de gros fichier central de l'état civil entre les passeports Voilà. Et la carte d'identité.
Ouais, temps change, c'était 87, on est en 2017, ça fait 30 ans. Voilà. Données carburant marketing années 90, donc là on a...
Les données carburant du marketing.
Les données carburant du marketing, voilà. Voilà, on est un petit peu dans la chronologie, lancement d'Internet, vidéosurveillance, entre en scène. Ah bah oui, les années 90, hein, ça me rappelle des bons souvenirs, ça, la vidéosurveillance. Introduction de la première formulation de type novlangue dans le droit français, c'était quand?
C'était en 2007.
En 2007,
c'était hortefeux, ouais. Avec la vidéoprotection.
La vidéoprotection en lieu et place de la vidéosurveillance jugée anxiogène.
Le premier fichier national des empreintes génétiques, hein, FNAEG.
98.
Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de personnes dedans. Évidemment, pas mal de gens qui n'ont rien fait, des suspects, simples suspects.
Et puis très vite, on passe bien sûr aux années 2000 avec la nouvelle donne. Protection des données à l'heure des géants du net, donc les fameux GAFA. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc ça commence en 2000 avec l'Union européenne qui met en place une charte des droits fondamentaux. Et puis le Patriot Act aux
2001.
États-Unis, 2001.
Après les attentats.
Après les attentats, en France, on a le fameux STIC, hein, dès 2001.
Avant, le STIC était complètement illégal, je me souviens. On avait fait Big Brother Awards, pas mal de
points là-dessus. Là, officiellement créé après un avis critique de la CNIL, son utilisation sera encadrée par une loi en 2003 seulement.
Seulement, ouais. 10 ans, parce que c'est Pasqua en 95 qu'il l'avait plus ou moins lancé.
Voilà, donc on a un peu l'évolution là sur la décennie des années 2000 avec la protection de la vie privée dans le secteur.
La première directive européenne en 2002.
La loi
informatique et liberté qui est réformée en 2004 précisément pour changer les pouvoirs de la CNIL et notamment
oui,
la recentrer sur le business, l'économie et puis lâcher quasiment tout le reste.
La partie sociétale, exactement.
Jusqu'à la partie administration.
Exactement.
Police, justice, sociale et compagnie.
Exactement. La CNIL peut effectivement traîner en pénal hein, les gens qui ont enfreint la loi informatique et liberté. Mais c'est un dispositif qui ne va jamais être utilisé finalement, donc c'est un petit peu le trompe-l'œil. Hein. Cette CNIL qui gagne en autonomie et qui a comme ça la possibilité d'établir une juridiction, et notamment sur le terrain du pénal, c'est complètement trompe-l'œil.
Bah oui, parce que généralement,
Dans le même temps, ça s'accompagne de la création du dispositif justement de correspondant informatique et liberté, qui lui est un dispositif essentiellement tourné vers des logiques d'efficacité d'entreprise. Hein, voilà, on est là pour fluidifier.
Pas de droit ou de liberté. Quoi.
La logique de contrainte.
Donc là, ils font une erreur. Fondamental au niveau de la date, il parle de 2007,
création
France,
du
création
Pass
du Pass Navigo. Excusez-nous, ça existe depuis 1999, 2000, 2001. Justement, au Big Brother Awards, ça faisait partie de nos suspects visuels, quoi, hein, la RATP.
Voilà, donc on parle de Snowden, 2013, la programmation militaire, 2013, qui donne de plus en plus de liberté, de capacité aux services de renseignement, à la police. D'entrer dans les données privées et personnelles des citoyens français. Tout ça au nom, bien sûr, des logiques de terrorisme, de criminalité organisée contre lesquelles il faut se battre.
Oui, donc là, on est vraiment dans un aspect historique, même très promotionnel hein, pour la Commission informatique et liberté.
L'accord conclu avec le fameux Privacy Shield.
Voilà.
C'est celui qui vient en remplacement du Safe Harbor. Bon, Safe Harbor, c'est déjà une usine à gaz.
Entre USA et Europe, hein,
voilà.
C'est ça.
Donc pour ceux qui ne savent pas, donc le Safe Harbor, c'était un espèce de regroupement de CNIL dans le monde qui estimait qu'elles avaient légitimement le droit de se présenter comme telles dans des pays démocratiques et puis de se présenter comme garant de la protection des données personnelles des ressortissants des pays. Donc ça veut dire que quand on a une CNIL aux États-Unis, une CNIL en France, une CNIL en Espagne, en Italie, on peut échanger entre Américains, Français, Italiens des données personnelles, entre banques, institutions, etc. parce qu'on est protégé par un cadre réglementaire qui est à peu près équivalent, hein, qui se vaut à peu près. Donc ce Privacy Shield a volé complètement en éclats seulement en 2015, après les révélations de Snowden en 2013. Et depuis, on patauge. Et ce Privacy Shield, il est ni fait ni à faire. Les Américains ne sont pas clairs et la CNIL ne sait pas quoi faire. Quand tu vas voir sur le site de la CNIL et tu regardes ce qu'il faut faire par rapport à ce Privacy Shield, ils t'expliquent que c'est en construction, mais que ce n'est pas fiable et que finalement, la façon la plus sûre hein, de sécuriser ces données commerciales, économiques, financières ou autres dans des relations avec les États-Unis, c'est de mettre en place quoi ? Des marchés de gré à gré et des contrats d'entreprise à entreprise. Et finalement, la CNIL t'explique qu'elle s'éjecte elle-même de ces dispositifs officiels, de ces dispositifs institutionnels, parce que les États-Unis ne jouent pas le jeu de la protection des données personnelles des ressortissants étrangers, même américains d'ailleurs. Et donc du coup, tout ça, ce sont des mots. Privacy Shield, c'est pas en place, c'est ni fait ni à faire. Et si tu veux protéger tes données aujourd'hui vis-à-vis d'une entreprise américaine, si toi-même t'es une entreprise, c'est de mettre en place un contrat spécifique, un marché, quelque chose qui... un accord, tu vois. Autrement dit, on est dans le domaine du pur business et de la relation négociée de gré à gré. Et les lois ont complètement démissionné, les institutions ont démissionné par rapport à ces logiques de protection.
Non, mais surtout quand ils n'expliquent pas que Privacy Shield, en fait, est arrivé après le Safe Harbor,
ouais.
Et qu'en fait, la Cour européenne de justice a désingué cet accord entre...
Oui, en expliquant qu'il ne présentait pas toutes les garanties, voilà. pour les usagers pourtant, européens,
alors qu'il
vis-à-vis
avait été,
des institutions américaines, des boîtes américaines,
alors qu'il avait
etc.
été en vigueur pendant au moins plus de 10 ans.
Ouais,
et dans ce tableau historique, il ne raconte pas aussi qu'en 2015,
c'est
la
léger.
Même Cour européenne de justice a invalidé une disposition mais fondamentale pour les forces de police, c'est-à-dire la rétention des données informatiques et de télécom, c'est-à-dire qui oblige sur un an tous les opérateurs, donc Internet, téléphone et compagnie, à conserver les données numériques de tous leurs abonnés pendant un an. Et cette directive a explosé comme étant disproportionnée, et là évidemment il ne la rappelle pas, et ça veut dire qu'en fait toutes les dispositions légales en France et dans tous les pays de l'Union européenne sont complètement justement devenu illégal à cause de cet arrêt-là, et personne n'en parle évidemment, parce que...
C'est une espèce de flou.
Terra Data, une exposition sur le monde merveilleux du Big Data, dans Les Amis de Roel sur Radio Libertaire.
Chaque fois que vous surfez sur des sites et réseaux sociaux, ou que vous lisez vos courriels, vous produisez des traces numériques. Différentes technologies permettent de tracer les visiteurs. Aujourd'hui, la plus répandue est le cookie.
Les cookies, ah ouais, ça, c'est les cookies, c'est un des premiers éléments de l'Internet hein, qui a commencé à poser des gros soucis. Ces petits fichiers cachés sur votre ordi qui vous aident à vous identifier et à ce que le site se souvienne du fait que vous êtes déjà venu.
On parle du cookie vise, là, de la CNIL, cette appli là, qui permet soi-disant de voir qui surveille ta navigation. J'avais essayé de l'installer ce truc, ça s'est jamais marché. Il faut qu'on essaye, c'est
sûrement qui vise. Alors il y a aussi, en l'occurrence, on va dire encore une fois, un placement de produit. Il y a une table qui s'appelle My Google Search History. En fait, ça relate les aventures d'une artiste, d'une web artiste, Albertine Meunier, qui pratique l'art dit numérique depuis 1998. Et elle a monté un projet, une performance autour. De son parcours en ligne, on ne va pas vous le décrire, ça a l'air assez compliqué. Il y a aussi une table aussi à signaler, une table entière consacrée au chiffrement et au déchiffrement. Donc il y a une partie historique avec la fameuse machine Enigma, les algorithmes en fait qui permettent donc de chiffrer des messages. Et il y a en représentation assez graphique, assez bien foutue, le fonctionnement de la cryptographie à clé publique, hein, celle de PGP, de GPG, donc qui s'intègre aux messageries de manière assez intuitive. Malgré tout, effectivement, le chiffrement des données, c'est toujours pas, 20 ans après les premiers débats sur la question, c'est toujours pas inscrit dans les produits en fait, qui sont vendus par les opérateurs Internet. Hein. On raconte tout le monde que c'est un droit fondamental de chiffrer ces données, mais là, en l'occurrence, pour le faire, il faut toujours se débrouiller tout seul. Et là, il y a encore une fois la part des opérateurs, même s'ils sont tout le temps... très enclins à raconter leur éthique professionnelle, jamais très pressés de fournir aux utilisateurs des systèmes de communication de personne à personne, garantissant une sécurité totale. Voilà, c'était notre déambulation critique dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire, sur cette exposition qui s'appelle Terra Data, la cité des sciences. Ça fait partie donc de ces expositions de vulgarisation pour accompagner le public familial, toujours le public jeune, évidemment, c'est lui qu'il faut convaincre en premier, que tout cela, certes, peut faire peur, peut déclencher des réactions urticantes, mais qu'il faut les adopter, qu'il faut les dompter. Et
Je vois pas trop l'intérêt de ce genre d'exposition parce que c'est c'est quelque chose d'un peu bâtard, tu vois. C'est un mi-chemin entre la dimension sociale de cette, enfin les enjeux qu'il y a derrière cette utilisation de ces algorithmes et de cette massification de traitement de données. Il y a des enjeux sociétaux qui ne sont pas bien expliqués ici. On est à la fois sur un terrain technique, sur un terrain historique, sur un terrain vaguement politique au travers de l'histoire, hein, dimension historique de tout ce qui est loi, protection et ça. C'est vraiment très très succinct. Donc c'est quelque chose d'un petit peu bâtard finalement. C'est à la fois trop technique pour des gens qui veulent avoir une vue, disons, grand public de tout ce que peut apporter le big data. Et en même temps, c'est pas suffisamment technique, pas suffisamment pointu pour des gens qui ont un petit peu de connaissances par rapport au sujet et qui auraient voulu avoir plus d'informations. Voilà. Donc on se demande un peu à quoi ça sert. Ça ressemble un petit peu à une occupation de terrain, tu sais. On est là pour occuper le terrain, on répète le message. Puis quelque part, ça procède d'une logique d'acceptation. On banalise le message et on est un petit peu dans l'incantation quelque part. C'est moyennement intéressant comme expo. En vérité, on s'emmerde un petit peu, ouais. Clairement. Hein. Je me posais la question de savoir qui cette expo pouvait intéresser, mais j'ai la réponse. Qui c'est qui peut accepter de tourner là pendant 2 heures, s'intéresser quand même malgré tout, mais en même temps être verrouillé dans la visite. Bah, les étudiants, les jeunes. L'expo qui est faite pour les lycéens, pour les collégiens, pour les jeunes, encadrés par les profs, ils vont passer 1h30, 2h, ils ne peuvent pas sortir, donc ils n'ont pas le temps de dire qu'ils s'emmerdent, ils sont obligés de regarder, de lire, de regarder, de prendre connaissance, et quelque part ça leur apporte un espèce de vernis culturel technique sur tous ces sujets, en les présentant sous leur meilleur aspect, et tout ça participe à une logique de banalisation, à une logique d'acceptation. Voilà, d'acceptation. Il ne faut pas que ces technologies fassent peur. Elles sont là, elles sont utiles. Et puis la CNIL s'occupe de tout, les entreprises sont responsables, toutes ces grandes entreprises savent ce qu'elles font. On est un petit peu dans le monde des bisounours, quelque part. Hein. À part quelques tableaux comme ça qui sont qui présentent les difficultés qu'on a eues en France à travers la loi informatique et liberté à imposer cette démarche de vigilance par rapport à la protection des données personnelles. Mais tout ça, c'est traité, non pas du point de vue politique, c'est traité de façon historique, assez rapide, tu vois. Donc à l'arrivée, on est vraiment dans une expo acceptation, voilà. Expo promo, c'est l'expo promo.
Expo promo, voilà. Écoutez, c'était donc les amis d'Orwell à la Cité des Sciences et de l'Industrie, une déambulation critique par Bernard et Jet. Et évidemment, les amis d'Orwell, ça revient tous les 15 jours sur 89.4 Radio Libertaire. There are fortunes and things. This is not good. Quick your talk. Quick your talk. Quick your talk. Quick your talk.
nouvelles traces numériques, on a calculé la société par le bas.
Impact de conformité.